Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, 2 heures d'infos pour tout comprendre, pour tout savoir. Et à la une, ce témoignage RTL effarant, effrayant. Une adolescente raconte l'enfer du trafic de drogue. Elle a été menacée et poignardée chez elle en banlieue parisienne après une altercation avec les dealers qui squattent son immeuble. Cette jeune fille brise la loi du silence. Vous l'entendrez à 18h15. Les autres titres de l'actu, Marion.
Le prêt-à-porter français plus que jamais en difficulté. L'enseigne Camailleux placée aujourd'hui en liquidation judiciaire. 2600 salariés concernés. Dans ce journal aussi, le poignant témoignage d'une victime de l'accident de car de Mias et ses nouveaux soubresauts à Alençon. Émeute la nuit dernière sur fond de trafic de drogue, retour au calme, mais inquiétude toujours très grande ce soir.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va décrypter la propagande anti-avortement sur Internet. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu avec notre envoyé spécial barricadé. En Floride, l'ouragan Ian y arrive avec des vents à près de 300 km/h. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière. Avec la mort programmée lundi d'un des personnages mythiques de Plus belle la vie. 18h40, on va défaire le monde, les 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu, please.
Fonte record des glaciers cet été, vous allez comprendre pourquoi ça risque de changer votre quotidien très rapidement. Au menu également, la revanche du col roulé, Mozart pour contrer Wagner et le pantalon de Brigitte Bardot.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont avec un face-à-face ce soir. Jean-Pierre Raffarin face à Cécile Duflot et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Demain encore perturbé, surtout le matin.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et avant toute chose, au procès de l'accident de Mias, le récit aujourd'hui à la barre d'un deuil impossible.
Un récit aussi au micro RTL d'Étienne Baudu, parce qu'aujourd'hui, 5 ans après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait 6 morts, des parents, des rescapés ont témoigné aujourd'hui, parmi eux, Assia. Elle avait 13 ans à l'époque des faits. Elle a passé 12 jours dans le coma. Aujourd'hui, elle a raconté avoir dit adieu ce jour-là à une part d'elle-même. Et elle l'a confié au micro RTL d'Étienne Baudu.
Au départ, j'ai pas voulu m'exprimer parce que je me sentais pas légitime. J'avais l'impression de pas avoir le droit de parler alors que il y a des enfants qui sont morts et je voulais pas rappeler à leurs parents en fait qu'il y en a qui sont toujours là.
À un moment donné, tu as même parlé de toi à la troisième personne.
Dans tous les actes de ma vie, je ne cesse de ramener cette Assia-là parce que je sais qu'elle est plus là et je sais qu'elle, elle aurait fait les choses différemment. En fait, elle avait beaucoup de rêves. Et je sais que je la retrouverai plus jamais et ça me fait beaucoup de mal.
Toi, tu étais particulièrement touchée. Comment tu es aujourd'hui?
Aujourd'hui, au niveau de mon œil, je vois toujours double, je vois toujours trouble. Après, c'est dur d'accepter parce que j'accepte toujours pas après 5 ans et demi d'accident que je suis comme ça. Je le vois dans mon visage, je le vois dans mes souvenirs et j'oublierai jamais non plus les enfants qui sont décédés, qui étaient avant tout des amis, une seconde famille, comme j'ai dit. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie, mais qu'il faut que j'essaye d'en faire ma force.
Assia, encore profondément marquée donc aujourd'hui au micro RTL d'Étienne Baudu.
RTL Soir.
Et on l'a donc appris il y a une demi-heure, le groupe français de prêt-à-porter Camailleux est placé en liquidation judiciaire.
2600 salariés concernés, plus de 500 magasins, c'est le tribunal de commerce de Lille qui a tranché. Bonsoir Franck Hanson.
Bonsoir.
C'est le scénario du pire pour l'enseigne qui a espéré jusqu'à la dernière minute un coup de pouce des pouvoirs publics.
Oui, et au terme de 3 heures d'audience ici au tribunal de commerce de Lille, le coup près est donc tombé pour l'enseigne Camailleux. La direction qui était aux commandes depuis 2 ans avait accumulé trop de pertes. Et dans la salle, Cindy, l'une des employées, laisse éclater sa colère face à ses patrons.
Voleur ! Vous trouvez ça normal ? Ça fait 2 ans, on s'est battu pour qu'ils nous reprennent. On a eu confiance en ces projets, on l'a eu profonde. Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue. On fait comment maintenant ? C'est lui qui va nous payer les loyers ? C'est lui qui va nourrir les familles ?
L'actionnaire qui promettait de nouveaux financements a bien tenté un dernier coup sur le fil pour obtenir en vain une aide de l'État, une demande qui n'était pas réaliste selon le gouvernement. Un beau gâchis en tout cas pour Nordine Mesraoui, le délégué CFDT. Il aurait espéré un nouveau délai.
C'est terminé. Enfin, c'est foutu, c'est cuit, c'est râpé, c'est voilà, c'est tout. On travaille jusqu'à vendredi soir ou samedi soir les magasins et basta quoi. Et adieu Camailleux, quoi, on va aller à l'enterrement et c'est fini. Il y avait possibilité, moi je pense, oui. Je regrette parce que ben, l'année prochaine, ça aurait fait 40 ans, quoi. Le 40e anniversaire, ça aurait été bien. On va aller rejoindre les, gens de, les rangs des chômeurs.
Et d'ici trois jours, donc, les 500 magasins de l'enseigne Nordis vont donc fermer définitivement, ainsi que le dépôt logistique à Roubaix. Une nouvelle vie à construire pour ces 2600 salariés.
Franck Hanson à Lille pour RTL. Et ce soir, le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, parle d'une grande déception.
10 usines, 7 régions et plus de 5000 emplois. La France prend le pari de l'hydrogène. La première ministre a dévoilé tout à l'heure la première liste des sites qui seront soutenus par l'État.
Oui, et l'usine Plastic Omnium à Compiègne dans l'Oise est de cela un site qui doit produire, Arnaud Touche, des réservoirs pour les utilitaires.
Oui, avec un investissement de 150 millions d'euros. Et d'ici trois ans, eh bien juste à côté de Compiègne, cette nouvelle usine sortira de terre, comme le détaille Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, qui compte produire
80 000 réservoirs par an, une usine qui commencera en 2025, qui sera entièrement neutre en carbone, et puis elle emploiera à peu près 200 emplois qui seront associés à cet effort dans les prochaines semaines.
Alors cette nouvelle usine produira donc des contenants pour l'hydrogène qui seront fixés sur des bus, des trains ou encore des voitures.
Dans l'usine, on aura les véhicules utilitaires, donc des Peugeot, des Citroën, Opel, pour Renault, Hyvia, les Renault Master. Et on aura également des réservoirs pour la marque Opium, pour les aider à créer un champion français de l'hydrogène.
10 entreprises seront donc créées d'ici 2030 dans 7 régions françaises en passant par Belfort, Béziers ou encore Aix-en-Provence. Et la filière pourrait générer jusqu'à 150 000 emplois pour un investissement global en France tout de même de 9 milliards d'euros.
Les précisions d'Arnaud Touche, merci. Elisabeth Borne à Compiègne aujourd'hui est reçue ce soir à l'Élysée par Emmanuel Macron aux côtés des ministres et de certains membres de la majorité. Sur la table, la réforme des retraites. RTL vous le révélait ce matin, c'est la piste d'un compromis qui serait privilégié avec un projet de budget de la Sécu rectificatif pour intégrer la réforme et pour offrir le temps de la concertation.
Ça n'a pas traîné. Il aura donc fallu à peine une semaine entre l'annonce d'une mobilisation partielle en Russie et les premiers déploiements sur le terrain.
Faut-il y voir là un signe de l'urgence de la situation alors que les troupes ukrainiennes continuent de progresser à l'est? En tout cas, certains appelés se retrouvent déjà sur le terrain. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Et ce, sans même avoir été formés ou entraînés.
Oui, et l'urgence est telle qu'il devrait être 30 000 à partir à la guerre sans avoir reçu la moindre instruction, sans savoir comment manier une arme. C'est le cas de ce soldat. Il vivait et travaillait à Moscou il y a quelques jours. On a sonné chez lui, on lui a remis une convocation pour le bureau d'enrôlement militaire. Dans cette vidéo, il est en uniforme dans un baraquement de la région de Moscou et au bord des larmes, il explique ce qui l'attend.
Je suis dans un régiment de tankistes et on vient de nous dire officiellement qu'on ne recevra aucune formation avant de partir au front. Le commandant vient de nous le confirmer. On va être envoyé dans la région de Kherson. On ne nous a pas appris à tirer. On n'a même pas eu de formation théorique. Rien.
Et sur les réseaux sociaux, on trouve également les témoignages des premiers mobilisés russes déjà faits prisonniers, des soldats russes largement incités à se rendre aux forces ukrainiennes. Des vidéos, des flyers, des messages sur Twitter et sur Facebook leur expliquent la marche à suivre.
Explication de Sophie Jousselin pour RTL. La Russie que l'Europe veut sanctionner davantage après les référendums d'annexion. Bruxelles propose aux 27 de plafonner le prix du pétrole russe. Concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream dans la Baltique, Moscou rejette toute responsabilité, pointe les États-Unis du doigt et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Allez, petite pause et dans un instant nous allons retourner à Alençon. 26 000 habitants, des émeutes la nuit dernière et 24 véhicules incendiés. À tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
18h, 10 minutes, la suite de votre journal donc dans RTL Soir. C'est une ville moyenne, hein, 26 000 habitants qui s'est embrasée la nuit dernière. Alençon, en Normandie, théâtre une nouvelle fois de violences urbaines.
Comme déjà il y a un an dans le quartier de Persègne. Cela s'est passé quelques heures après l'intervention de la police sur un point de trafic de stupéfiants. Deux interpellations. Quelques heures plus tard, véhicules incendiés, policiers visés par des tirs de mortier. Un scénario qui se répète selon cette habitante du quartier.
À minuit et demi, on a entendu des coups de feu et des détonations. Donc, bien sûr, ça nous a réveillés, ça a fait aboyer les chiens. Et du coup, on est sortis et moi, j'ai une vue sur la place centrale et j'ai vu qu'il y avait plusieurs voitures qui brûlaient. J'ai appelé les pompiers qui m'ont dit qu'ils étaient déjà au courant. Ils m'ont demandé si les véhicules étaient près des habitations parce qu'en fait, ils attendaient la gendarmerie ou la police pour intervenir. Et j'ai su ce matin qu'il y avait eu 30 voitures de brûlées. Mais dès qu'il y a des interpellations, au final, ça se finit comme ça, des voitures brûlées, quoi.
Élodie, habitante du quartier de Perseigne à Alençon, c'est vous qui l'avez rencontré pour RTL. Christian Panvert, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Un quartier où le calme est revenu, mais où l'inquiétude fatalement demeure.
Oui, le calme est revenu. Il reste encore des stigmates de cette nuit de violence. Des abribus cassés, les carcasses des 24 véhicules brûlés ont été enlevés par les services de la ville. La vie du quartier a bien sûr été très perturbée. Aïssa n'est pas allée au lycée aujourd'hui.
C'était l'odeur de cramé. Et là, je voulais y aller en ville, prendre le bus. J'attends 20 minutes à l'arrêt de bus et je vois qu'il n'y a pas de bus. Depuis ce matin, en fait, il n'y a aucun bus parce que je crois que les routes elles ont été barrées à cause des voitures brûlées. Donc, ça veut dire même ceux qui devaient y aller à l'école pour prendre le bus, ils n'ont pas pu y aller.
Une dizaine de personnes n'ont pas pu se rendre au travail ce matin. Saïd a peur que ça dégénère.
Qu'il y a des gens, ils vont faire justice eux-mêmes. Hein, parce que la police, elle a mis du temps à venir hier. Hein. Puis il y avait des jeunes aussi. Si vous descendiez pour déplacer votre voiture, ils étaient là avec des barres de fer. Hein, c'était violent. On parle de voitures brûlées, mais aussi il y avait des équipes qui étaient là pour terroriser la population.
La préfecture a mis en place un dispositif de sécurité renforcé dans la ville pour cette nuit.
Christian Panvera, Alençon pour RTL.
À Brest, un problème technique et une panne informatique à l'hôpital depuis ce matin. Les interventions chirurgicales programmées sont annulées. Accueil aux urgences également perturbé. Enfin, le match de la discorde et ce maillot que certains députés ne veulent pas partager avec d'autres élus du Rassemblement National. L'équipe de foot de l'Assemblée s'apprête pourtant ce soir, hein, bel et bien, à affronter à Paris une équipe d'anciens joueurs dans un match caritatif qui a rarement autant passionné.
C'est sûr. Nathan Bocard, vous êtes au bord de la pelouse pour RTL. Le match va commencer aller dans un quart d'heure. Maintenant, les députés de gauche, donc le boycott, il y aura qui finalement sur ce terrain ?
Eh bien, écoutez, Julien, pour l'instant, les joueurs arrivent au compte-gouttes pour s'échauffer, donc difficile d'avoir une idée précise de la feuille de match. Ce que je peux vous dire, c'est que certains députés Renaissance ont fait fi du message de leur chef Aurore Berger qui leur déconseillait de venir. Mais Carl Olive, député des Yvelines, est attendu puisqu'il est, excusez-moi du peu, capitaine de l'équipe parlementaire. Et il n'est pas venu seul puisqu'à l'échauffement, j'aperçois au moins un député Renaissance, c'est Philippe Fay, il est député du Pas-de-Calais. À gauche, un député a finalement fait le déplacement, c'est David Riemann, il est député de la Guyane, il est apparenté gauche démocrate et républicaine. Alors bien sûr, les élus RN sont bien présents, Julien Odoul, Emmanuel Bléry font chauffer les crampons actuellement. Alors, désaccord politique ou pas, il va falloir jouer collectif parce qu'en face, attention, Sidney Govou, Clément Chantôme, Bruno Chéroux, il y a du lourd, on devrait voir du spectacle et je ne vous cache pas, sûrement pas mal de buts, mais peut-être que d'un seul côté.
Allez, dans un quart d'heure, donc le coup d'envoi de cette rencontre. Nathan Bocard, merci.
Merci Marion. Le temps pour demain.
Perturbé encore. Julien. Ben oui, surtout le matin en fait, demain
vous
matin.
Vous répétez un petit peu.
Bah oui, mais enfin en même temps, bon, on a besoin d'eau, donc déjà ça c'est pas mal. Sauf qu'il y a des endroits où il y en aura beaucoup malheureusement. Alors, le matin, entre le sud-ouest, le nord-est, les frontières de l'est, les puits vont rester bloqués en plus toute la journée sur le Pays Basque. D'ailleurs, les Pyrénées-Atlantiques sont déjà en vigilance orange, pluie, inondation ou prudence. Ailleurs, un temps sec et lumineux, après dissipation de quelques grisailles matinales, peut-être quelques gouttes sur les bords de Manche et du beau temps près de la Méditerranée toute la journée. L'après-midi, un ciel de traîne sur les trois quarts du pays, entre nuages, éclaircies et averses. En revanche, ça reste pluvieux dans le sud-ouest, avec une limite pluie-neige sur les Pyrénées à 2200 mètres. Sur les Alpes du Nord, des averses encore et une limite pluie-neige à 1700 mètres, mais aussi un ciel chargé avec des averses parfois orageuses entre la Normandie et les Pays de la Loire, comme en Corse. Le tout sous des températures encore fraîches. On est souvent sous les 6 degrés, sous les normales. Voilà, 14 à 16 au nord, 16 à 18 au sud, jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
Merci quand même, Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL ce soir s'intéresse à la propagande anti-avortement sur Internet. C'est la journée mondiale du droit à l'IVG et le planning familial a lancé un site web aujourd'hui pour lutter contre la désinformation. Pourquoi ? On va poser trois questions à Agathe Landais. Bonsoir Agathe.
Bonsoir à tous.
Racontez-nous, vous avez passé la journée sur le web. On y trouve effectivement des infos complètement bidons sur l'IVG ?
Alors oui, il suffit de faire le test en tapant IVG sur Google. Les premiers liens qui
remontent sont heureusement des sites officiels, mais en première page de résultats, le cinquième site qui ressort s'appelle IVG.net. Vu le nom, au début, on ne se méfie pas, sauf qu'il est tenu par un couple de militants anti-avortement. Et justement, si on tape « avortement » sur Google, là, on a un autre site du même genre qui ressort, avortement.net, qui s'affiche, lui, en troisième page.
Sur ces sites anti-avortement, qu'est-ce qu'on peut y lire ?
Déjà, il y a des pages forums qui relaient des témoignages de femmes. On se rend vite compte que ces sites ne partagent que des récits de femmes qui ont été soit forcées par quelqu'un à pratiquer l'avortement ou qui ont très mal vécu, voire regretté leur décision. Ils mettent aussi en avant les dangers pour la santé après un avortement, détresse psychologique, envie suicidaire, risque de devenir stérile, alors qu'en réalité, les études prouvent que l'IVG n'a pas d'impact sur la fertilité.
La désinformation en ligne, elle n'est pas interdite ?
Alors officiellement, si. Le délit d'entrave à l'IVG est bien inscrit dans la loi. La diffusion de fausses informations sur le net ou le fait de créer une pression psychologique sur les femmes est passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Sauf que dans les faits, cette loi promulguée il y a 5 ans n'a pas changé grand-chose parce que ces sites sont en fait très subtils. Ils ne conseillent jamais formellement de ne pas avoir recours à l'avortement. Cette recommandation est bien plus insidieuse. Elle doit se lire entre les lignes. C'est donc quasiment impossible à prouver devant un tribunal.
D'où le site web lancé aujourd'hui par le planning familial ici en France. La Brigade RTL avec Agathe Landais pour RTL. Donc merci Agathe. RTL Soir va revenir dans quelques secondes avec un témoignage absolument effarant. Une adolescente poignardée, menacée à Villetaneuse près de Paris après une altercation avec les dealers en bas de chez elle. Un commando cagoulé est rentré dans son appartement pour l'agresser. Sa maman a également été blessée. La jeune fille nous raconte juste après ça. C'est un document RTL. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez toujours RTL Soir et notre invité maintenant, c'est une adolescente poignardée, menacée par des dealers ces derniers jours à Villetaneuse. C'est en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Bonsoir Louane.
Bonsoir.
Alors vous vivez avec votre maman, votre famille dans un immeuble qui est malheureusement également un point de deal. La cohabitation est devenue impossible. La preuve, vous avez été violemment agressée ces derniers jours. La semaine passée, les dealers filtraient l'entrée de votre bâtiment, c'est ça ?
C'est ça. Ils ont filtré le bâtiment, ils ne voulaient pas laisser les personnes de notre famille rentrer, en disant que comme quoi, ici c'était leur cité et qu'ils laissaient pas n'importe qui rentrer dedans. Après mes cousins, les personnes de ma famille ont forcé pour pouvoir rentrer en disant que c'était leur cousine, ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue. Du coup, ils sont rentrés. Le lendemain, ma mère est partie voir ces personnes-là. Elle leur a dit « Comment ça se fait que vous ne laissez pas rentrer les personnes de ma famille ? C'est pas normal. C'est l'habitation à tout le monde ici, c'est pas que la vôtre. Vous n'habitez même pas ici. Et vous devez faire la loi ?» Ils ont commencé à nous insulter, des « ferme ta gueule », excusez-moi du terme, « je vous Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Juste, parce qu'on est parti, on a demandé des explications. »
Et ensuite, samedi soir, vous étiez chez vous et des personnes ont débarqué, c'est ça ? Racontez-nous.
C'est ça. On avait commandé Uber Eats. On a ouvert la porte en pensant que c'était eux, parce que ça avait sonné à la porte.
Un livreur de repas, donc, et ce n'était pas le livreur de repas.
Non, ce n'était pas le livreur de repas. C'était... Moi, je n'étais pas... j'étais dans le salon à ce moment-là. Ma mère a ouvert la porte. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma mère tomber. Un gros boom comme ça, et je suis arrivé en courant, et j'ai vu ma mère avec du sang sur les bras, elle était allongée par terre. Quand j'ai vu ces trois hommes debout, à ce moment-là, je me suis baissé vers ma mère, et à ce moment-là, je me suis pris un coup de couteau dans les fesses.
Et les personnes qui étaient chez vous venaient de frapper votre maman ?
Oui, quand je suis arrivé, je l'avais déjà trouvé par terre. Il lui avait déjà frappé au bras et au dos.
Et c'est des personnes qui étaient à visage découvert ?
Non, ils avaient un cache-cou remonté sur leur visage.
Cette scène, elle a duré combien de temps ? L'agression, elle a duré combien de temps, Louane ?
3 minutes, 2 minutes, même pas.
Ils vous ont dit quelque chose, vos agresseurs, lorsqu'ils vous ont frappé, poignardé ?
Non, rien. Je ne les ai même pas bien vus parce qu'il y avait de la lacrymo partout.
Ils vous ont gazé également ?
C'est ça.
Pour vous, ça ne fait pas de doute. Les agresseurs sont liés à l'altercation que vous avez eue avec les dealers 24 heures.
Bien sûr. C'est forcément ça.
Vous avez été poignardé. Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment va votre maman ?
Je vais mal, ma mère va mal. quand je passe tous les jours, je vais au collège, j'ai peur de rentrer chez moi. C'est traumatisant. Traumatisant.
Parce que les dealers sont toujours
en bas. Ils sont toujours en bas, j'en ai reconnu forcément. Mais ça veut dire que moi, à chaque fois que je passe en rentrant du collège, je les vois. Ils sont là, ils me regardent. Moi, je tremble quand je passe devant eux. Et mon cœur, il bat, malgré la police qui vient souvent.
Vous avez été de nouveau menacé ?
Oui, rien qu'hier, je suis passé, ils m'ont dit, je le...
Vous dites que la police passe, est-ce que la police vous protège, vous surveille ? Parce qu'on imagine que la situation, elle est intenable.
Ils nous surveillent, je ne sais pas, mais ils ont renforcé les contrôles.
Vous voulez changer d'appartement, Louane ?
Bien sûr, on a parlé au bailleur, mais ça fait 4 jours, il n'y a toujours rien. On les a appris, il n'y a toujours rien. C'est inadmissible, c'est pas possible de vivre comme ça. Je vais chercher mes sœurs à l'école, ma sœur s'accroche à moi en disant qu'elle a peur.
Il y a d'autres personnes qui sont terrorisées dans votre immeuble, dans votre quartier ?
En fait, tout le monde a peur, mais tout le monde, tellement que les gens ont peur, ils disent rien.
C'est pour ça que vous souhaitez le silence, que vous souhaitez en...
Exactement. Rien que l'intercation qui s'est passée vendredi, il n'y a personne qui s'en est mêlé, tous les voisins étaient à la fenêtre, mais personne n'est venu prendre nos défenses ou dire « on est avec vous, oui, on est d'accord, c'est pas normal ». Personne. Malgré qu'on s'entend avec tout le monde dans le quartier. Personne.
Merci Louane d'avoir accepté de témoigner ce soir sur RTL, de nous avoir raconté cette soirée d'enfer. Donc, c'était samedi soir dans votre appartement de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. Vous avez été poignardée, votre maman a été tabassée, elle, chez vous, donc après une altercation 24 heures avant avec des dealers. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir sur RTL.
Merci.
Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
Et dans quelques secondes, l'info continue dans RTL Soir. Il y aura vos dessous de l'actu. On va partir aux États-Unis, direction la Floride plus précisément. Et on va aller rejoindre notre envoyé spécial qui est en train de se barricader face au vent à 250 km/h. L'ouragan Ian approche. Et puis laissez-vous tenter dernière avec un coup de tonnerre cette fois. La mort d'un personnage mythique de la série Plus belle la vie, révélation RTL. Juste après ça, restez à l'écoute, à tout de suite.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée avec RTL Soir, quasiment 18h30.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
On vous étonne, on vous informe. Voici les trois titres de l'actu à retenir en cette fin de journée, Marion.
À 2600 emplois supprimés, plus de 500 magasins fermés, l'enseigne de prêt-à-porter Camailleux placée en liquidation judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Lille cet après-midi. Un choix libre en faveur de la Russie, c'est avec ces mots que Moscou a qualifié les référendums d'annexion. Ce soir, le Royaume-Uni fait savoir qu'il ne les reconnaîtra pas, ces référendums organisés dans 4 territoires. Ukrainiens. Et puis grève interprofessionnelle demain pour les salaires et contre la réforme des retraites. Dans les gares, 6 TER sur 10 annoncés. Quelques perturbations sur les lignes TGV Est et Atlantique. En classe, 20% des professeurs d'école pourraient être absents.
Perturbation, c'est aussi le maître mot chez vous, Peggy, pour la météo de demain.
Exactement, Julien. Et surtout, demain matin, entre les Pyrénées, le Grand Est et les frontières de l'Est, c'est vrai que les pluies seront assez conséquentes. De fortes pluies même sur le Pays Basque, puisque les Pyrénées Atlantiques sont déjà en vigilance orange. Pluie, inondation pour toute la journée, ça commence aujourd'hui. Alors demain, donc, un temps plus calme et sec de part et d'autre, même s'il y aura quelques nuages. Et dans l'après-midi, ça restera couvert et pluvieux dans le sud-ouest, sur le nord des Alpes, et des averses, voire un coup de tonnerre entre la Normandie, les Pays de la Loire. Et puis partout ailleurs, on trouvera un ciel mitigé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Le tout sous des températures bien fraîches. Le matin, au nord, on sera souvent sous les 10 degrés, donc on se couvre. Et l'après-midi, on sera souvent 6 degrés sous les normales, de 13 à 16 au nord, 16 à 18 au sud, jusqu'à 24 quand même près de la Méditerranée.
Temps perturbé, mais ce n'est rien, bien entendu, comparé aux États-Unis où nous partons maintenant.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous de l'ouragan Ian, classé 4 sur 5, qui s'apprête à toucher les côtes de la Floride avec des vents pour l'instant à 250 km/h. On va aller rejoindre notre envoyé spécial près d'Orlando, Lionel Gendron. Bonsoir Lionel.
Bonsoir à tous.
Alors les services météo américains s'attendent, je les cite, à des conséquences catastrophiques. Pourquoi parle-t-on d'ailleurs chez vous de tempête du siècle ?
Parce que l'est de la Floride n'a pas l'habitude de gérer des ouragans comme celui-ci, contrairement aux côtes ouest et sud. Le dernier événement comparable dans la région de Tampa, c'était en 1921. C'est pour ça qu'on parle de tempête du siècle. Et ce qui fait peur, c'est l'impact. Ce sont aussi les inondations qui vont suivre dans des zones peu protégées. Aux dernières mesures, l'ouragan était donc en catégorie 4 avec des vents à 250 km/h, c'est-à-dire qu'on est seulement à 2 km/h du passage en catégorie 5, la catégorie des ouragans les plus dévastateurs.
Lionel, là où vous vous trouvez à Orlando, l'ouragan va arriver a priori dans la soirée, dans la nuit autour de vous. On imagine que tout le monde est en train de se barricader.
Ouais, depuis une heure, il n'y a pratiquement plus personne dehors. Hein. Ce matin, beaucoup ont fait des provisions d'eau et de nourriture, j'en faisais partie. Et juste avant 9h, il y a une annonce. Dirigez-vous vers les caisses, le magasin ferme. Le chariot rempli de chips, de soda et de bouteilles d'eau. Félicia, une mère de famille de Tampa, a roulé toute la nuit pour s'éloigner des côtes et elle est fataliste.
On voulait échapper au cœur de la tempête, mais apparemment elle va frapper ici. Avec mes enfants et mon mari, on va prier Dieu pour qu'il prenne soin de nous et qu'on passe cette tempête sans dommage.
Alors il est presque trop tard pour bouger, les habitants de Floride et les touristes, hein, j'en ai croisé beaucoup, vont attendre dans l'endroit le plus sûr possible et pour beaucoup la boule au ventre.
Les dessous de l'ouragan Ian en approche. Merci Lionel, prenez soin de vous, surtout mettez-vous à l'abri. Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride. Merci Lionel.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h33 maintenant.
Laissez-vous tenter dernière
avec un coup de tonnerre maintenant à la télévision. Vous le savez, la série Plus belle la vie va prendre fin le 18 novembre prochain. Et l'épisode qui sera diffusé dans quelques jours, lundi plus précisément, sera marqué, Laurent Marsic, bonsoir.
Bonsoir.
Par une disparition, la mort d'un personnage emblématique de Plus belle la vie.
Ça fuitait partout sur Internet. On va pouvoir ce soir vous le confirmer. C'est la mort de Roland Marcy, l'emblématique patron du bar du Mistral, incarné depuis le premier épisode de Plus belle la vie par l'acteur Michel Corde. Son personnage disparaît. Une mort logique explique pour la première fois l'acteur Michel Corde, logique avec l'arrêt de Plus belle la vie en novembre prochain.
Disons que personnellement j'avais pris des distances déjà, pas parce que je voulais prendre des distances par rapport au feuilleton. Bon, j'ai 77 ans, je commence à fatiguer, j'avais, en plus je n'habitais pas à Marseille, donc j'avais énormément de trajets, donc ça entraînait pour moi une vie un peu lourde.
Mais si elle renaît ailleurs, ce sera sans vous, de toute manière.
Alors, ça sera sans moi. Ben, je crois que c'est le secret de Polichinelle. Le personnage, il est mort. Il va mourir. J'ai le souvenir impérissable. Le jour de la dernière séquence, il y avait 120, 150 personnes sur le plateau. Ça a duré 10 minutes. Il ne s'arrêtait pas.
10 minutes d'applaudissements.
Ah oui. L'émotion des gens qui... C'est pour ça que...
La voix tremble un peu.
Ah oui, oui.
Et avec lui, disparaîtra la place du Mistral, rebaptisée place Roland Marcy.
L'émotion des gens sur le plateau, l'émotion aussi de l'acteur. Il faut dire, Laurent, que cette série a été une aventure singulière pour
oui,
eux.
Pour tous. On leur avait dit au départ une série pour quelques mois, finalement, ce sera 18 ans, rendez-vous compte. Il n'y avait pas de star dans ce feuilleton, ça se passait à Marseille, mais ça touchait tout le monde, parce que c'était le reflet de nos vies. C'est ça que garde Michel Corde.
C'est surtout ça, c'est une belle aventure. J'ai vécu assez bien parce qu'on a touché le public. Je veux dire, le public s'est dit, ils sont comme nous. Ça aurait pu se passer à Brest ou à Lille, ça aurait été à peu près pareil. On parlait de la société française. Le Nord était la région qui regardait le plus. Ils ne regardaient pas des Marseillais, ils regardaient leur vie. Il y a des gens pour qui on était très important, faisait partie de la vie, et tout d'un coup, il va leur manquer un membre de la famille.
À quoi ça va ressembler la vie maintenant ?
Moi, je vais profiter un peu plus de la vie. J'ai une autre vie, moi. C'est la sculpture qui a rien à voir avec le spectacle.
Voilà. Il va continuer, évidemment, Michel Corde. Sculpteur sur bois, c'est ce qu'il voudrait faire. Enfin, c'est ce qu'il fait, en tout cas. Donc, peut-être des expos.
Pourquoi pas. La mort de Roland Marcy, donc, à voir ce lundi sur France 3. Ce sera l'événement pour les fans de Plus belle la vie. Et puis, dimanche, sur Salto, entretien complet, bien entendu, avec Michel Corde à retrouver sur RTL.fr. Merci pour cet entretien, cher Laurent Marsic. La suite dans RTL Soir, c'est dans quelques secondes à peine. On va défaire le monde avec les curieux. Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
20 minutes d'infos autrement, ça c'est le slogan. On va défaire les glaciers aujourd'hui, parce que les glaciers suisses, donc c'est vraiment à côté de chez nous, ont perdu 6% de leur volume, rendez-vous compte, en 2022, c'est du jamais vu. Pourquoi ? Quelles conséquences si les glaciers fondent totalement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que notre quotidien va être bouleversé ? On s'interroge et on vous explique tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.